Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Quand un enfant fête ses 7 ans, on dit qu'il atteint l'âge de raison. Et quand un adulte cherche à justifier ses comportements, bons ou mauvais, on dit « j'ai des bonnes raisons pour faire ceci, cela ». La première phrase utilise donc le mot raison au singulier, la seconde au pluriel. Vous l'avez compris, aujourd'hui dans Au fil des pages, nous allons parler de raison avec mon invité, monsieur Raymond Boudon, qui est sociologue. Monsieur Boudon, bonjour.
Bonjour.
Vous occupez une place majeure dans la sociologie et dans la philosophie des sciences sociales. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vous êtes professeur à la Sorbonne et vous êtes aussi membre de nombreuses académies étrangères, européennes, britanniques, américaines, canadiennes, russes. J'ai même rencontré de nombreux étudiants qui vous estiment tellement qu'ils sont enthousiasmés quand ils parlent de vous pour dire que vous êtes apprécié. Et ma première question sera toute simple. Pourquoi raison, bonne raison, qui est le titre de l'ouvrage de votre livre dont nous parlons aujourd'hui paru au PUF. Raison, bonne raison, raison au singulier, bonne raison au pluriel. Quelle est la différence ?
Un grand problème des sciences sociales, c'est de savoir comment on se représente l'être humain. Une bonne partie des productions des sciences sociales se le représentent comme irrationnel, comme soumis à toutes sortes de forces, à des forces biologiques, à des forces psychologiques ou à des forces socioculturelles, disons. J'ai voulu ici insister sur le fait que la sociologie, lorsqu'elle a contribué à expliquer des choses qu'on comprenait mal, se représentait plutôt l'homme comme rationnel, mais rationnel pas au sens étroit, pas au sens très vaste de la raison avec un grand R, mais dans un sens beaucoup plus souple. Alors, c'est ce que j'ai voulu indiquer par le titre, pas la raison avec un grand R, pas la rationalité au sens du XVIIe siècle, mais les raisons avec un petit R, c'est-à-dire une rationalité comme celle qui, par exemple, explique que le piéton regarde à droite et à gauche quand il traverse. Il a des raisons.
Oui. Il a plusieurs bonnes raisons de regarder à droite, de regarder à gauche, de faire attention.
Ce sont des petites raisons.
Ce sont des petites raisons, mais importantes parce qu'elles motivent son choix de traverser ou de ne pas traverser.
Exactement, et elles expliquent son comportement. Et même si on y réfléchit un tout petit peu, une fois qu'on a vu qu'à partir du moment où il regardait à droite et à gauche, il cherchait à atteindre un objectif, ne pas se faire écraser, finalement l'explication est terminée, elle est définitive, elle est sans boîte noire. Alors une des thèses de ce livre, c'est que ce qui est vrai pour le piéton, c'est vrai aussi de comportements évidemment un petit peu plus compliqués.
Pour tous les comportements sociaux. Pour comprendre votre ouvrage, je crois qu'il faut d'abord avoir quelques connaissances au sujet d'une théorie qui apparemment est admise de façon unanime par l'ensemble des sociologues contemporains, qui est la théorie du choix rationnel. Mais cette théorie, vous allez nous la rappeler, mais aussi nous dire pourquoi vous la contestez un peu, ou du moins vous aimeriez la rendre plus complète. Elle ne vous semble pas complète.
Alors effectivement, les sociologues, mais surtout les sociologues anglo-saxons, utilisent une version que j'appellerais utilitariste de la rationalité. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les raisons qui poussent les individus à agir sont toujours des raisons relatives à leurs intérêts, en un sens plus ou moins large. Alors j'ai contesté, c'est effectivement une manière de voir les choses qui est extrêmement répandue, mais encore une fois, surtout en Angleterre, aux États-Unis, en Europe du Nord, plus qu'en France ou en Allemagne, par exemple, où là, au contraire, les sociologues ont plutôt tendance à se représenter l'homme comme irrationnel. Alors, mon idée, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'une vision aussi étroite de la rationalité. On comprend pourquoi les sociologues de tradition anglo-saxonne ont une version utilitariste de la rationalité. L'utilitarisme est un mouvement de pensée extrêmement bien implanté dans le monde anglo-saxon. Mais je pense qu'on ne peut pas tout comprendre de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de comportements que l'on peut expliquer en faisant état des raisons qui poussent les gens à agir comme ils le font, sans que ces raisons aient nécessairement trait à leur intérêt.
Oui, pour illustrer cela, par exemple, on va donner un exemple. Vous dites, si les gens votent, se dérangent pour aller dans un bureau de vote, alors qu'un vote, ça ne change rien au scrutin, c'est parce qu'ils ont une autre raison, justement, que leur intérêt personnel.
Exactement. Alors c'est un exemple tout à fait caractéristique. Il est absolument impossible d'expliquer pourquoi les gens votent à partir de l'intérêt, puisque un vote, par définition, ne compte pas. Par conséquent, non seulement il ne sert pas mes intérêts, mais il ne sert à rien, même si l'on veut pousser les choses à l'extrême, puisque lorsqu'il s'agit d'une consultation populaire portant sur 10 millions de personnes, il est évident qu'aucune voix en particulier ne va faire la différence. Pourtant, les gens votent, et ils votent non pas par impulsion, non pas pour des raisons purement affectives, mais ils votent parce qu'ils ont des raisons, et les raisons ne sont pas tellement difficiles à trouver. C'est qu'ils croient aux vertus de la démocratie, ils croient à une certaine forme de l'organisation politique, et qu'ils manifestent cette croyance de façon cohérente avec eux-mêmes en allant voter, puisqu'ils considèrent, à partir du moment où ils considèrent que la démocratie est une bonne organisation de la société, on considère aussi que les élections sont une bonne chose et par conséquent on va voter.
Enfin, absolument. Ouais. Donc vous pensez que cette théorie du choix rationnel, adoptée par la majorité, comme vous le dites, des sociologues, n'est pas suffisante pour expliquer les croyances. Vous dites par exemple que les gens qui vont voter croient en la démocratie. Vous expliquez par un autre exemple aussi que quelqu'un qui peut avoir une opinion forte, par exemple qui serait tout à fait contre la peine de mort, on ne peut pas expliquer non plus son comportement ou les comportements sociaux par la théorie du choix rationnel. Ça n'est pas rationnel, c'est pas suffisant.
Alors ça, c'est un autre exemple où on voit qu'on ne peut pas accepter une version utilitariste du comportement. C'est qu'effectivement, la peine de mort, la plupart des gens ont une opinion sur la peine de mort, pour, contre, mais ont une opinion. Or, la plupart des gens ne sont pas directement menacés, ni eux-mêmes directement, ni à travers leurs proches. Or, ils ont tout de même une opinion très forte. D'autre part, ça n'est pas une opinion qui soit de nature purement affective, qui relève de la seule sensibilité. C'est beaucoup plus que ça. Et en général, quand on interroge les gens, il suffit d'interroger son voisin pour le voir immédiatement. Lorsque les gens sont contre, ou quand ils sont pour aussi, ils ont une théorie derrière. Mm-hmm. Ils ont une théorie, c'est cette théorie qui les convainc.
Donc, la théorie du choix rationnel, vous ne la trouvez pas suffisante pour, asseoir la sociologie comme une science. Vous dites qu'elle n'est pas encore tout à fait une science.
Oui, alors effectivement, cette théorie du choix rationnel a attiré beaucoup d'attention aux États-Unis. C'est elle qui a valu le prix Nobel, par exemple, à Gary Becker. Mm-hmm. On l'a remercié en lui décernant le prix Nobel, parce qu'il avait essayé de fonder une science sociale générale, une sociologie, à partir de cette théorie du choix rationnel. Alors je crois que les échecs qu'on vient de mentionner montrent qu'il y avait quelque chose de positif dans ce prix Nobel. C'est-à-dire qu'il y avait une reconnaissance du fait qu'on ne peut pas aller très loin si on essaye d'expliquer le comportement humain de manière complètement affective, irrationnelle, émotionnelle. On ne peut pas aller très loin. Alors je crois que c'est pour ça qu'on a attribué le prix Nobel à Gary Becker. Mais d'un autre côté, je crois qu'on a pousser le bouchon un petit peu loin, et qu'il y a toutes sortes de comportements qu'il faut expliquer de manière rationnelle à partir des raisons, sans rentrer dans le cadre étroit de la théorie du choix rationnel, qui est trop utilitariste.
Donc quelle théorie alternative proposez-vous dans cet ouvrage « Raison, bonne raison » qui vient de paraître au PUF?
Si on regarde les usages de la notion de rationalité, il y en a deux. Il y a celui dont on vient de parler, qui assimile les raisons aux raisons d'intérêt. Mmh. C'est la rationalité instrumentale. Il y a rationalité au sens de la rationalité instrumentale si on choisit des moyens qui sont pertinents par rapport à une fin. Mais les philosophes des sciences utilisent le mot rationalité dans un autre sens. Lorsque j'accepte une théorie de préférence à une autre, ça n'est pas du tout parce que c'est un moyen pour atteindre une fin, mais c'est parce que je trouve la première plus vraie que la seconde. Donc, dans la tradition, il y a deux sens de la rationalité. Rationalité instrumentale ou rationalité que j'appelle cognitive. Et je crois que c'est la deuxième qui doit servir de base à la compréhension ou à l'analyse des croyances et des comportements des individus tels qu'on peut les observer.
Alors, vous dites que ces comportements individuels dépendent de 5 facteurs que je vais énumérés, mais qui s'écrivent en abrégé, alors c'est très intéressant, ADAC, A, D, A, 2, C. A comme action, D comme décision, A comme attitude, C comme comportement et C comme croyance. Alors quand on a étudié tous ces éléments, tous ces paramètres des comportements individuels, on peut élaborer une théorie qui explique suffisamment les comportements des individus. Ça suffit.
Voilà, c'est ça ce que j'ai voulu dire en prenant cet acronyme, comme on dit. C'est que, qu'il s'agisse de décision, qu'il s'agisse de croyance ou qu'il s'agisse d'action, expliquer, ça consiste toujours à retrouver les raisons qui sont plus ou moins conscientes dans la tête des gens et qui les inspirent. Et alors j'ai essayé dans ce livre de prendre toutes sortes d'exemples concrets pour montrer que les grandes réussites de la sociologie consistent toujours, lorsqu'on examine la manière dont les démonstrations sont faites, consistent toujours effectivement à retrouver les raisons. Par exemple, tout le monde sait que les Américains sont beaucoup plus religieux que les Européens. Mmh. Toutes les enquêtes le démontrent. Comment expliquer cela ? Il y a une première manière irrationaliste qui consisterait à dire il y a des forces qui émanent de la société américaine qui font que, puis des forces qui émanent des autres sociétés qui font que. En réalité, ça ne nous mène pas tellement loin. Enfin, les grands sociologues, qu'il s'agisse de Tocqueville ou des autres, ont trouvé des hypothèses, ont imaginé des hypothèses qui sont acceptées et qui consistent à indiquer que les Américains, étant situés dans un autre contexte, ont des raisons que n'ont pas les Européens au même titre de rester plus religieux. Par exemple, comme il n'y a jamais eu d'affrontement violent entre l'État américain et puis les églises américaines parce qu'elles étaient morcelées, miettées, trop petites, et que l'État américain, dès le début, avait installé la séparation de l'église et de l'État, le résultat, c'est qu'il n'y a pas eu de conflit entre les églises et l'État, de telle sorte que les églises sont beaucoup plus présentes aux États-Unis qu'elles ne le sont ici. C'est-à-dire que le Harvard est, par exemple, le nom d'un pasteur protestant, ce qu'on ne sait pas toujours, mais enfin, il y a un certain nombre d'institutions américaines, qu'il s'agisse des hôpitaux, qu'il s'agisse des institutions scolaires, parfois les plus prestigieuses, comme Harvard, etc., qui gardent encore aujourd'hui des traces de leur origine religieuse. Donc la situation est tout à fait différente et on comprend, à partir du moment où on évoque ces différences, on comprend que les Américains aient des raisons de ne pas avoir les sentiments négatifs qu'on peut avoir en Europe parfois à l'égard des institutions religieuses.
Raymond Boudon, je vous remercie. Vous avez éclairé notre raison grâce à votre livre, dont je rappelle le titre « Raison, bonne raison », paru au PUF dans la collection « Philosopher en sciences sociales ». Et je voudrais mentionner aussi votre autre livre, paru lui chez Odile Jacob, « Y a-t-il encore une sociologie ?» Raymond Boudon avec Robert Leroux qui vous interroge. C'est un livre d'entretien qui est peut-être aussi plus facile. C'est une autre façon de comprendre votre combat pour une sociologie plus individualiste, c'est ça qu'on peut dire. Je vous remercie infiniment.
Merci.